Direct en jeu, la radio insolite accueille des gens qui vivent le spectacle vivant et certains sont en même temps directeurs de compagnie et d'autres sont toujours présidents même s'ils ne sont plus. Bonjour Raymond, comment est-ce qu'il faut que je vous appelle? Il faut que je vous appelle président ou co-directeur?
Non, moi je suis comédien metteur en scène et oui. Je suis co-directeur de la compagnie de la courte échelle qui est l'activité artistique principale de l'année.
D'accord.
Mais il se trouve que sur Avignon, je co-dirige également et on fait la programmation artistique avec Michel Albault de l'Espace Alia, qui aurait dû fêter normalement cette année sa 25e édition, et le Chapeau d'Ébène Théâtre, qui est une sorte de salle hors les murs de l'Espace Alia.
Voilà. D'accord. Mais si je ne dis pas de bêtises, vous avez aussi été président du Festival OFF d'Avignon?
Je l'ai été, en effet, sur l'année 2016. Je fais partie des cofondateurs de AFSC en 2006, avec André Benedetto, Greg Germain et bien d'autres. Et oui, voilà, oui, en 2016, j'étais président. Et à l'issue de ce festival, suite aux élections où Pierre Beffet a été élu, j'ai démissionné du conseil d'administration, oui.
D'accord. Alors, ce qui est important, c'est que vous avez fait jeudi dernier, jeudi 30 avril, un communiqué de presse pour annoncer malheureusement que les compagnies programmées à l'Espace Alia et au château, au Chapeau d'Ébène, bon, malheureusement, ne pourraient pas se produire. Et puis, vous avez pris des décisions qui étaient importantes. Par exemple, celle de dire que toutes les compagnies ont été remboursées intégralement. Qu'est-ce que ça représente c'est difficile de prendre une décision comme ça que d'annuler un festival qui est tellement important?
Annuler un festival, je sais, on n'a pas eu vraiment le choix. De toute façon, ça s'est imposé à nous tous. C'est très, très difficile, évidemment, à tous les points de vue, du point de vue artistique et affectif, parce que c'est une aventure, en tout cas pour ce qui nous concerne. C'était la 25e année. Nous fidélisons beaucoup de compagnies, de publics, de journalistes, de professionnels. Et donc, c'est un rendez-vous qui, pour nous, fait partie de notre paysage depuis 25 ans. Donc, évidemment, c'est très, très douloureux. Ça, c'est l'aspect purement affectif et artistique, parce qu'au Festival d'Avignon, c'est aussi des rencontres, confronter nos pratiques artistiques avec l'ensemble des compagnies que nous programmons et celles qui sont évidemment globalement sur le festival. Donc ça, c'est très difficile. Et puis derrière, on n'oublie pas qu'il y a aussi l'aspect économique pour les compagnies et pour notre propre compagnie. Et on est parfaitement lucide sur ce qui va se passer pendant un an, deux ans, voire trois ans, puisque comme vous le savez, à Avignon, on y est aussi pour présenter notre spectacle aux programmateurs qui ensuite font vivre ces spectacles pendant une saison, deux saisons, trois saisons pour les plus chanceux. Et donc, on est bien obligé d'avoir tout cela présent à l'esprit. Donc, c'est très, très douloureux. Oui. Après, la décision, on n'a pas eu à la prendre. Elle a été prise pour nous et c'est tout à fait normal et naturel, même si on s'en doutait un peu. Honnêtement, je ne vois pas comment on aurait pu faire autrement.
Alors, c'est très juste ce que vous dites, puisque moi, je me rappelle avoir rencontré des compagnies l'an dernier qui me disaient qu'ils avaient pu, par exemple, aller faire une tournée au Japon, d'autres en Corée, parce qu'il y a tous les programmateurs qui viennent. C'est vraiment le lieu incontournable, quasiment, Avignon, depuis des années.
Ça l'est devenu, oui.
Comment est-ce qu'on fait pour être en même temps co-directeur artistique et gérer un espace avec le choix de compagnies, de spectacles et plein d'autres choses?
Déjà, il faut avoir une bonne organisation, un bon planning.
D'accord.
Et puis ensuite, s'entourer d'une équipe qui travaille avec nous depuis très très longtemps et sur qui on peut vraiment s'appuyer. Donc il y a l'aspect avant le festival et il y a l'aspect pendant le festival. Donc avant le festival, c'est un travail essentiellement de programmation. Donc des compagnies qu'on a déjà vues à Avignon, des compagnies qu'on connaît déjà, puisque à peu près la moitié de notre programmation est constituée de compagnies qu'on a déjà programmées les années précédentes.
D'accord.
Et on connaît déjà leur travail. Donc, souvent, ils viennent avec des créations qui, au moment de la décision, n'est pas encore visible. Mais après, voilà, au bout de 25 ans, on a constitué aussi une espèce de famille artistique, on va dire, avec un travail que nous apprécions et que nous reconnaissons. Et après, évidemment, c'est une question de confiance. On a un dossier, mais on n'a pas pu voir le spectacle. Et puis, évidemment, on prend beaucoup de temps à voir les spectacles. Ça, c'est la partie la plus agréable, évidemment, hein, puisque c'est aussi une façon de faire connaissance avec des compagnies qu'on ne connaît pas. Maintenant, avec le temps, notre ligne artistique, elle est à peu près vue et reconnue par les compagnies. Et souvent, les compagnies qui nous sollicitent, puisque généralement, c'est les compagnies qui nous sollicitent, s'inscrivent déjà dans cette démarche artistique. Et donc, la grande difficulté pour nous, c'est que ce qu'on voit correspond. Mais on ne peut pas proposer à tout le monde de venir. Donc ça, c'est un petit, ça c'est la partie la plus difficile, c'est de faire après un choix. Bon, alors on explique aux compagnies, et ce choix, évidemment, il est aussi dans l'équilibre. Nous, on ne veut pas ghettoiser notre lieu, donc à part quelques spectacles qu'on peut voir dans des lieux qui sont très très identifiés par rapport à, je dirais même pas de l'humour, mais enfin en tout cas, ils sont classés en humour, mais ça ne correspond pas vraiment à notre programmation à nous, et je ne suis même pas sûr que le public s'y retrouverait. On ne veut pas se spécialiser dans le clown, dans la musique, dans le jeune public, dans le théâtre contemporain. Nous, on pense que quand on a une palette large de propositions artistiques, généralement, les spectateurs qui sont venus attirés par un spectacle, une fois sur place, peuvent trouver un intérêt à une compagnie qui vient en parler à un moment où, parce qu'ils ont vu des tracts, enfin voilà. Et donc la programmation, elle se fait la moitié de compagnies qu'on connaît déjà, l'autre moitié de découvertes, parce qu'il faut faire vivre aussi cette famille artistique. Et il faut que tous les ans, évidemment, même par rapport au public et aux programmateurs, il est important que de nouvelles compagnies soient programmées chez nous.
Alors, ce qui est bien en plus chez vous, c'est qu'il n'y a pas que du théâtre, il y a aussi des débats, il y a aussi des rencontres. C'est vraiment tout un autre univers.
Ben, nous, avant que le village Diof existe, on appelait ça le village théâtral. Et pour nous, oui, c'est conçu comme tel. C'est-à-dire qu'il y a quatre espaces scéniques qui sont très, très différents, qui correspondent à des propositions vraiment artistiques adaptées. Mais on organise des rencontres, on organise des plateaux ouverts, des lectures où des auteurs peuvent venir présenter un texte. À des programmateurs ou à des producteurs ou à des metteurs en scène qui peuvent être intéressés par le texte. Donc Michèle Albo est auteure elle-même, elle est comédienne dans notre compagnie, mais elle est aussi auteure. Et elle est évidemment très sensibilisée sur l'écriture contemporaine. Et voilà, et on a aussi tout simplement des compagnies qui ne sont pas encore tout à fait sûres par rapport à Avignon, plutôt des compagnies émergentes, pour qui c'est l'occasion de se tester un petit peu et d'essayer de voir. Alors tout cela, par exemple, dans ce cadre-là, sont accueillis gracieusement, et le public est un public d'invités uniquement. On se met au service et du public et des compagnies pour une rencontre pendant une heure et demie, pour partager ensemble un moment artistique qui, quelquefois après, peut déboucher ou pas, ça dépend.
Quand on va sur le site internet de la compagnie de la Courte Échelle, on voit beaucoup de spectacles pour les enfants avec des poupées, avec des marionnettes, avec des contes, des théâtres d'objets. C'est un choix de viser ce type de public ?
Nous, notre parcours artistique, il y a fort longtemps, puisqu'on est plutôt jeune quand même, était évidemment d'abord le théâtre, mais ensuite on a découvert l'art de la marionnette, cet objet théâtral qui, à l'époque, était moins connu et moins reconnu, surtout que maintenant.
Tout à fait.
Ça nous a semblé très pertinent pour faire passer un certain nombre d'émotions et de choses qu'on... Pour nous, la marionnette, c'est pas remplacer un comédien, c'est faire une chose qu'un comédien ne pourrait éventuellement pas faire. Parce que l'intérêt de la marionnette, c'est qu'on est tout le temps dans la suggestion. Donc, une marionnette ne parle pas, les yeux ne bougent pas, enfin, sauf dans certains cas, mais qui sont plus dans le show business plutôt que dans le cabaret, disons, que dans le théâtre contemporain. Et c'est vrai que un silence avec une marionnette peut avoir un sens qui n'existerait pas s'il y avait juste un comédien sur scène. Il y a des mouvements qui permettent à l'imagination du spectateur d'interpréter comme elle le souhaite. Et en fait, souvent, à la sortie d'un spectacle, quand on vient nous parler de telle scène ou telle scène ou telle scène, le mouvement et la manipulation de la marionnette étaient évidemment identiques pour chaque spectateur, mais souvent, ils n'ont pas vu la même chose, ils n'ont pas donné le même sens à ce mouvement-là. Et c'est ça la richesse de la marionnette. Et nous, on s'est très vite intéressé à ça, il y a maintenant 30 ans même, et on s'est aperçu qu'on pouvait faire passer des choses encore plus fortes de cette façon-là. Alors après, c'est vrai qu'à l'époque, la marionnette était plutôt destinée à un jeune public, ce qui n'est plus vrai du tout maintenant. Et nous-mêmes, par rapport au spectacle dit jeune public, c'est disons une notion assez particulière. Nous, on fait un spectacle par rapport à un thème. On aborde des thèmes qui sont, ça peut être aussi bien la Shoah que la rumeur. Le nouveau spectacle qu'on devait faire cette année traitait de la rumeur, de la crise d'adolescence, du handicap, enfin des choses qui ne sont pas forcément des choses qu'on aborde avec les enfants. Mais nous, on ne fait pas un spectacle pour les enfants. On fait un spectacle qui est accessible à partir d'un certain âge. Mmh. Et pour nous, évidemment, les enfants viennent rarement seuls au spectacle. Ils sont toujours accompagnés d'adultes. Et pour nous, quand les parents commencent à regarder plus ce qui se passe sur le plateau que la réaction de leurs enfants, bah, c'est gagné. Parce qu'on est sûr que c'est un spectacle qui touche aussi les adultes à un autre niveau, évidemment. Et Michel, qui écrit la plupart du temps nos spectacles, l'écrit d'une façon telle qu'il y ait plusieurs niveaux de compréhension, que ce soit selon les spectacles à partir de 3 ans, à partir de 5 ans, à partir de 7 ans. Pour la Shoah, c'est plutôt à partir de 9 ans, mm-hmm. C'est des thèmes un peu difficiles. Et évidemment, il y a un premier niveau qui est le niveau de la narration, et après, il y a forcément des clins d'œil ou on fait appel à des connaissances que seuls les adultes peuvent avoir par rapport à l'histoire, par exemple, ou par rapport à la crise d'adolescence. Comment voulez-vous qu'un enfant de 8 ans ou de 9 ans puisse comprendre ça? Mais quand il s'agit de personnages de conte qui commencent à se rebeller et qui commencent à plus vouloir vraiment faire ce qui est prévu dans leur histoire, mmh. Bah, quelque part, c'est une sorte de crise d'adolescence des personnages de conte, et des enfants de 8 ans ou de 9 ans le perçoivent comme des personnages qui veulent faire autre chose. Ils ne le voient pas comme une crise d'adolescence. Mais les adultes, oui. Parce que dans les dialogues, les adultes se rappellent parfaitement de comment ça se passait, eux, quand ils étaient adolescents, ou avec leurs enfants qui sont plus grands éventuellement.
C'est compliqué, c'est plus valorisant d'aller faire un spectacle dans une chapelle, en particulier la chapelle du Miracle.
Plus valorisant, je ne sais pas. C'est en tout cas, pour nous, une salle, c'est un outil. Hein. Donc il y a des spectacles qui se prêtent plus à une chapelle.
Oui.
Qu'une salle de classe qu'on a aménagée. Même si quand on rentre dans cette salle, personne ne peut imaginer comment ça se passe quand c'est une salle de classe, parce que les salles sont complètement aménagées à l'espace Alia, comme des théâtres des théâtres en ordre de marche.
Ah, complètement, oui.
L'intérêt de la chapelle, c'est évidemment l'acoustique et la hauteur. Et il y a des spectacles qui nécessitent 5 mètres, 5 mètres 50 de hauteur par rapport à leur scénographie, par rapport au travail qui a été fait au niveau de la lumière, ou tout simplement par rapport à l'acoustique. Donc en fin de compte, quand on regarde les spectacles et quand on envisage la programmation des spectacles, soit les compagnies, dès le départ, souhaitent être programmées dans cette salle parce que c'est l'outil qui leur convient le mieux par rapport à leur proposition artistique. Quelquefois, c'est nous qui prenons l'initiative de le proposer aux compagnies parce qu'il nous semble que leur spectacle serait encore mieux mis en valeur dans ce théâtre-là. Alors, je ne sais pas si c'est de la chance, c'est en tout cas...
J'allais vous poser la question.
Bah, c'est un outil qui est adapté. Enfin, pour nous, vous savez, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on est d'abord une compagnie. Le lieu, c'est venu après. On a fait une première année à Avignon dans un théâtre où on était très, très bien accueillis par le directeur qui s'appelait Dominique Fattaccioli, et c'était le théâtre du Bourgneuf. On lui en est très reconnaissant parce qu'il nous a fait confiance et... Et peut-être que c'est lui aussi qui nous a montré le chemin par rapport à comment faire quand on accueille une compagnie, quelque part. Mmh. Et après, quand nous, on a souhaité, disons, se doter nous-mêmes d'un outil et être un petit peu moins dépendant de quelqu'un qui allait ou pas nous programmer, avec un créneau horaire qui nous convenait ou pas, enfin bon, ce que vous connaissez d'Avignon, on a décidé de se lancer aussi là, en sachant qu'en effet, ça allait nous faire... 2 ou 3 fois plus de travail, que nos journées allaient être assez compliquées à gérer parce que nous, on joue dans notre lieu. Donc pendant 2 heures, on a une petite bulle, si vous voulez, où c'est notre compagnie qui travaille. Et puis en dehors de ça, de 6 heures du matin à 1 heure du matin, c'est pour les autres que nous travaillons, pour les autres compagnies. Mmh. Et donc pour nous, un lieu, c'est un outil, ce n'est qu'un outil. La chapelle, c'est un outil. Une salle de classe aménagée, c'est un outil au service d'une proposition artistique et rien d'autre. Et c'est pour ça que la conception que nous, on a de l'accueil des compagnies dans un lieu, ça reste toujours ce que c'est pour notre propre compagnie, un outil au service d'une proposition artistique. Et donc, il faut que l'outil soit adapté à la proposition artistique, aussi bien au niveau de la jauge qu'au niveau de la hauteur de la salle, de l'ouverture, etc., etc.
D'accord. Direct Angelin, Radio Insolite va lancer à partir de mardi prochain son premier anniversaire, évidemment, puisque ça a démarré le 12 mai 2019 à Cannes. Et Cannes a décidé, en liaison avec Venise et d'autres festivals, de faire un festival en virtuel. Et je me rappelle que l'an dernier, lors de conférences de presse au Festival Love d'Avignon, il y avait eu un échange sur dire si un jour il y a un problème, est-ce qu'on peut envisager de faire le spectacle vivant en virtuel, c'est-à-dire en utilisant les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez vous imaginer, vous?
Bon, moi, je suis assez sensible à tous ces outils audiovisuels, nouvelles technologies, parce que voilà, j'ai une autre casquette aussi dont on n'a pas parlé là, et ce n'est pas l'objet de notre interview, puisque c'est moi qui produis Festi TV, qui est quand même depuis 1997, une web TV, enfin depuis 2007, une web, enfin sous forme de web TV. On était précurseurs à l'époque et les images, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça. Donc moi, je suis particulièrement sensible à cet aspect des choses. Après, présenter un spectacle à travers un écran, bon, on voit beaucoup de captations. Nous-mêmes, enfin, on peut voir aussi des spectacles qu'on ne peut pas voir sur place parce qu'ils ne sont pas forcément
Exact.
accessibles immédiatement. Bon, je vais dire que c'est un pis-aller. Voilà.
Tout à fait.
Ou alors il faut trouver une communication qui soit différente. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher à remplacer ce que l'on vit dans une salle
Exact.
quand on voit un spectacle,
Ah, mais
parce
c'est
que si on dit que
impossible.
c'est du spectacle vivant,
Ah
c'est
oui.
pas du cinéma.
Ah, tout à fait,
Voilà.
complètement.
Donc, si on a la captation de spectacles, comme il y en a beaucoup en ce moment qui sont diffusés, ma foi, c'est mieux que de rien avoir du tout. Mais le côté, c'est un petit peu comme la différence entre la télévision et le cinéma. Quand on est 100 personnes à regarder ensemble et à ressentir des émotions ensemble et à les partager avec des comédiens sur scène, c'est quand même pas la même chose qu'être tout seul devant un écran. Rien que ça, déjà, c'est pas la même chose. Maintenant, c'est vrai que par rapport au virtuel, il y a sûrement des choses à inventer, il y a sûrement des choses à apporter qui viendront non pas remplacer le spectacle vivant tel qu'on pourrait le vivre dans une salle, mais peut-être le compléter, peut-être voir des choses qu'on ne verrait pas quand on est dans une salle. Et ça, oui, en effet, de toute façon, on va être un peu obligé d'inventer de nouvelles formules, ça c'est clair. Mais pour moi, ce n'est pas pour remplacer, c'est autre chose.
D'accord, ok. 2021, vous le préparez déjà?
Ben, oui, déjà parce que toutes les compagnies, vous l'avez rappelé au début de notre interview, pour nous c'était une évidence que les compagnies qui avaient déjà versé des acomptes qui nous ont servi à nous à payer aussi tout ce qu'on avait à payer en avance, il y a beaucoup de choses dans un lieu. Pour nous c'est un peu particulier parce que comme on est une compagnie, dès le départ on était dans un système de mutualisation. Nous, on loue des locaux, ça ne nous appartient pas, on n'est pas propriétaire, et même au bout de 25 ans, si on fait les additions de tout ce qu'on a payé nous-mêmes comme loyer pour les locaux, je pense qu'on aurait pu déjà avoir un très très beau théâtre sur Avignon. Mais
D'accord.
enfin, nous, on ne rembourse pas des traites toute l'année. On verse au propriétaire une somme assez conséquente pour pouvoir présenter nos spectacles. Et donc, nous, on mutualise tout. On mutualise la location, on mutualise les salaires, on mutualise le matériel, les locations, etc., etc. Et donc les compagnies nous versent des acomptes au fur et à mesure que nous-mêmes, on est obligé de verser des acomptes puisque tous ces frais-là sont partagés avec l'ensemble des compagnies. Nous, on ne s'est pas posé de questions avec Michel. On a raisonné, Michel Albault, on a raisonné comme une compagnie. Une compagnie qui ne va pas faire le Festival d'Avignon, sa première préoccupation, après l'aspect évidemment affectif et artistique, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'aspect économique. Donc nous, on n'a même pas attendu que le off fasse un communiqué de presse. Dès l'instant où le président de la République avait fait son annonce et dans la foulée,
Eh oui.
Olivier Piat a fait son annonce,
Eh oui.
on a envoyé immédiatement un mail à l'ensemble des compagnies pour leur dire trois choses. C'est ce qui a fait l'objet de notre communiqué de presse. Mais le communiqué de presse est arrivé après, une fois que ça a été fait. Pas ce qu'on avait l'intention de faire, mais ce qui a été fait. C'est-à-dire que l'ensemble des compagnies, dans la semaine qui a suivi, a été intégralement remboursé sans aucune retenue de tout ce qu'elles avaient versé. On commence dès la semaine prochaine, à partir du 11, on va commencer à communiquer sur leur spectacle auprès des programmateurs qui viennent chez nous et qui nous font confiance depuis des années.
Tout
Donc
à
nous,
fait.
on a une base de données, si vous voulez, programmateurs, pas une base de données programmateurs généralistes ou qu'on peut acheter quelque part. C'est des programmateurs qui sont venus chez nous. On est capable de dire tel programmateur, il y a 8 ans, a vu tel spectacle et tel spectacle chez nous, et ainsi de suite.
D'accord.
Et donc, on peut affiner par rapport à ceux qui sont venus plutôt voir pour ce qui était destiné au jeune public, plutôt ceux qui sont venus voir de la musique, plutôt ceux qui sont venus voir du clown. Et donc, au fur et à mesure, on va affiner. Et on a proposé aux compagnies d'envoyer ce qui aurait été leur page programme sur Internet, avec des liens sur leur site, sur leur Facebook, sur leur Twitter, enfin les réseaux sociaux, en disant à ces programmateurs que voilà, ils auraient pu avoir l'occasion de voir ce spectacle chez nous. Et on le fait parce qu'ils savent que quand ils viennent chez nous, il y a eu ce filtre et ils viennent en confiance découvrir des spectacles. Donc on se dit que c'est ce qu'on peut faire pour aider les compagnies. On ne peut malheureusement pas faire tellement plus que ça, mais je pense que les compagnies sont plutôt contentes qu'on va faire ça, et on va le faire à partir de la semaine prochaine. Et puis la troisième chose, c'est de leur dire, bien entendu, pour celles qui le souhaiteront et pour celles qui financièrement pourront, parce que pour l'instant il y a beaucoup d'incertitudes encore, elles auront une priorité de programmation pour 2021. Donc pour 2021, on est déjà en train de le préparer rien que pour ça. Et bizarrement, avec ce qui se passe depuis un certain temps, on a des compagnies qui habituellement viennent nous voir pendant le festival d'Avignon et nous envoient déjà des dossiers et commencent déjà à nous appeler pour 2021, parce qu'elles se disent que voilà, ils vont peut-être avoir besoin de préparer des dossiers, de monter des dossiers. Bon, comme on entend qu'il pourrait y avoir des aides, il pourrait y avoir un vrai soutien, et c'est tant mieux, et tout le monde s'en félicite. Il y a des annonces quand même qui ont été faites hier par le président de la République, qui, je l'espère, vont se concrétiser. Parce que pour l'instant, ce sont des déclarations d'intention, mais un décret, c'est quand même plus, voilà, c'est plus sûr, on va dire. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où il peut y avoir quelques assurances, c'est plutôt bien et plutôt sain que les compagnies se projettent déjà en 2021. Et du coup, ça va même plus vite que les années précédentes. Bon, après, il y a tellement d'incertitudes pour l'instant que nous, on va avancer, hein. Comme on a avancé pour 2020 jusqu'au moment où on nous a dit qu'il fallait s'arrêter d'avancer. Donc je pense qu'on aura beaucoup de compagnies qui étaient prévues en 2020. En tout cas, toutes les compagnies étrangères, pour cette 25e année, on n'avait jamais eu autant de compagnies qui venaient du monde entier. On avait des Canadiens, des Brésiliens, des Espagnols, des Italiens, des Belges, vraiment des très très belles compagnies. Quand on vient d'aussi loin, vous imaginez bien que ça ne peut pas être une compagnie émergente, hein, c'est forcément des compagnies de grande qualité. Elles nous ont toutes confirmé leur souhait de revenir l'année prochaine. Voilà, maintenant l'année prochaine c'est loin, pour l'instant qui peut se projeter à 2021 ?
J'allais dire c'est loin et de l'autre côté c'est très proche, et ce qui est bien c'est que ça veut dire que la flamme est toujours là et qu'on n'attend pas le lundi 11 mai pour se dire allez hop, on parle du futur.
Non, très, très honnêtement, en tout cas, nous, l'échange qu'on a avec les compagnies, et c'est pourquoi on a envoyé un mail très vite aussi, dont la conclusion, vous l'avez lu, nous, on est déjà... ça ne sert à rien de se lamenter. De toute façon, les artistes se lamentent rarement. Hein. Vous savez, les artistes, ils sont toujours en ébullition, ils sont toujours en train d'inventer des choses. Ils sont surtout à se projeter. Ce qui était difficile, c'est de savoir si on aurait les moyens de se projeter. Bon, j'espère qu'on va nous rassurer au fur et à mesure que le temps va passer, ce qui n'était pas encore le cas il n'y a même pas 4 ou 5 jours, et que petit à petit, on va être rassuré et on va se dire que, bon, voilà, on va pas profiter de cette occasion-là pour nous mettre définitivement la tête sous l'eau, quoi.
Oui, tout à fait.
Voilà, pour le off, c'est sûr qu'il y avait, voilà, il y a sans doute des grandes réflexions qui vont se mettre en place à l'automne. Bon, après, ça, je sais pas, par rapport au off, c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile, j'en parle en connaissance de cause. Voilà, je sais pas exactement comment les choses pourraient évoluer au niveau du off, mais c'est évident que de toute façon, il y aura l'avant et l'après, c'est sûr.
Écoutez, moi, je voulais vous remercier. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver la compagnie, l'espace Alia et le chapeau d'ébène ?
Pour le retrouver où ça ? Sur les sites ?
Sur les sites internet, sur page Facebook.
Les sites, c'est simple, c'est espacealia.com par rapport à l'espace, ou aliateatre.com, puisque Alia Théâtre, c'est la structure qui chapeaute l'ensemble, on va dire.
D'accord.
Nous, on sépare la structure qui est à Avignon, à l'espace Alia et au chapeau d'ébène théâtre. D'accord. C'est la structure Alia Théâtre. Et la compagnie de la courte échelle, c'est une compagnie qui existe depuis plus longtemps encore que les lieux. Donc ce sont deux structures et deux entités juridiques vraiment très très différentes. Et notre compagnie à nous, elle est considérée comme n'importe quelle compagnie par Alia Théâtre et par l'espace Alia. C'est-à-dire qu'on a aussi nous-mêmes notre contribution à la mutualisation et nous participons aussi aux frais évidemment au même titre que n'importe quelle compagnie. Donc on peut trouver par rapport à la compagnie espacealia.com, on peut trouver chapeaudébène.com, mais évidemment il y a un lien entre les deux. Et pour la compagnie, c'est compagniecourteéchelle.com. Voilà.
C'est cette synergie, c'est cette union sacrée entre guillemets qui fait que vous êtes très respecté. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de vous l'an dernier. Et c'est vrai que le fait d'être au même niveau que toutes les autres compagnies que vous accueillez est tout à votre honneur. Moi, je voulais vous remercier pour ce petit moment que vous nous avez consacré.
Merci à vous de vous être intéressé à notre parcours, en tout cas.
Merci.